Au terme de ces vastes enquêtes, toutes les issues apparaissent fermées devant l'ambition de transporter dans l'au-delà notre besoin ou notre rêve de sublimation et d'universalité. Quoi qu'on nous prêche, quoi que nous apprenons, il faudrait toujours se souvenir que c'est l'homme qui donne et l'homme qui reçoit. C'est une mortelle main qui nous le présente, c'est une mortelle main qui l'accepte. La sagesse commande d'être en garde contre une interversion des plans, et une fois de plus, elle parle par la bouche de Plutarque. Les dieux ont la santé en essence, dit la philosophie, et la maladie en intelligence. L'homme au rebours possède ses biens par fantaisie, les mots en essence. Mais comme il est pénible à son amour-propre d'accepter ce contraste des perspectives, à la date de 1580, dans le paroxysme des passions religieuses, combien s'est-il trouvé d'esprits assez libres pour ne pas être blessé en leurs préjugés intimes lorsqu'il lisait qu'il n'a rien de cru si fermement que ce qu'on sait le moins, ni gens si assurés que ceux qui nous content des fables comme alchimistes, prognostiqueurs, judiciaires, chiromanciens, médecins. Auxquels je joindrais volontiers si j'osais un tas de gens, interprètes et contrôleurs ordinaires des desseins de Dieu, faisant état de trouver les causes de chaque accident et de voir dans les secrets de la volonté divine les motifs incompréhensibles de ses œuvres. Et quoique la variété et discordance continuelle des événements les rejettent de coin en coin et d'Orient en Occident, ils ne laissent de suivre pourtant leur estoffe, balle, et de même crayon, peindre le blanc et le noir. Et ce n'est certes pas sans ironie que Montaigne, dans l'édition de 1588, ajoutera « En une nation indienne, il y a cette louable observance. Quand il leur mésadvient en quelque rencontre ou bataille, ils en demandent publiquement pardon au soleil qui est leur dieu, comme d'une action injuste, rapportant leur heure et malheur à la raison divine et lui soumettant leurs jugements et discours. S'il existe une providence, du moins est-il certain qu'elle n'a pas daigné mettre sa conduite à la portée de notre intelligence. C'est à Dieu seul de se connaître et d'interpréter ses ouvrages. En revanche, il nous appartient de mener l'humaine vie conformément à sa naturelle condition. Et Montaigne se flatte d'y avoir réussi. J'ai pris bien simplement et crûment pour mon regard ce précepte ancien, que nous ne saurions faillir à suivre nature, que le souverain précepte, c'est de se conformer à elle. Toutefois, l'embarras est grand de préciser l'application de ce principe, où les écoles de l'Antiquité se sont accordées en effet, mais pour s'opposer entre elles, sinon pour s'opposer chacune à soi. S'il ne s'agit que de fixer le vrai visage de la philosophie, ici renfrogné, sourcilleux et terrible, là, plus gai, plus gaillard, plus enjoué et à peu que je ne dise folâtre, Montaigne n'éprouve aucune hésitation. Je hais un esprit hargneux et triste qui glisse par-dessus les plaisirs de la vie et s'empoigne, épais au malheur comme les mouches qui ne peuvent tenir contre un corps bien poli et bien lissé, et s'attache et repose au lieu scabreux et raboteux et comme les ventouses qui ne huent mais à peine que le mauvais sang. C'est au moment d'aller plus avant, de confronter les analyses psychologiques qui soutiennent les prescriptions morales, que la situation se retourne, que les routes se croisent et s'embrouillent. Au fond de cet embarras, il y a en effet un double paradoxe historique. La mollesse, au moins apparente de l'éthique épicurienne, rencontre la dureté des lois universelles et indubitables, qui régissent la nature des choses sans un regard ni une faveur pour l'intérêt spécifiquement humain, alors que la nature stoïcienne, par la correspondance étroite, par l'harmonie intime, du macrocosme et du microcosme, infléchit la centrique auquel Montaigne acquiesce volontiers. Nature est un doux guide, mais non pas plus doux que prudent et juste. Je quête partout sa piste. Prescrire de rechercher la nature en sa pureté originelle n'aidera guère à la retrouver. Nous l'avons confondue de traces artificielles. Et ce souverain bien académique et péripatétique qui est vivre selon Hyssel devient à cette cause difficile à borner et à exprimer. Et celui des stoïciens, voisin à celui-là qui est consentir à nature. Ici encore, nous risquons de nous heurter à l'arrogance dogmatique qui nous empêche de nous rendre compte. Caler selon nature pour nous, ce n'est caler selon notre intelligence, autant qu'elle peut suivre et autant que nous y voyons, ce qui est au-delà est monstrueux et désordonné. En fait, les sectes qui s'efforcent de nous entraîner dans le tourbillon de leurs opinions partisanes et fantastiques témoignent d'une égale incertitude par leur contrariété en matière pratique comme en matière spéculative. Les philosophes, avec grand raison, nous renvoient aux règles de nature, mais elles n'ont que faire de si sublimes connaissances. Il les falsifie et nous présente son village trop en couleur et trop sophistiqué, d'où naissent tant de divers portraits d'un sujet si uniforme. Cette diversité ne pouvait manquer de réagir sur l'œuvre de Montaigne. Elle commande et elle explique en partie les fluctuations de son naturalisme. De nouveau, et pour les problèmes qui lui tiennent le plus à cœur, nous trouvons Montaigne pour et Montaigne au contre. Il ne lui suffit pas de se dire tantôt stoïcien, tantôt épicurien. Par moments, il voudra être l'un et l'autre, suivant l'exemple de Sénèque lorsque l'ami de Lucilius renonce à se mettre sur ses ergots et qu'il va butiner dans le camp adverse. Par moments aussi, Montaigne se piquera de n'être ni l'un ni l'autre, puisque la philosophie n'a su trouver aucune voie pour la tranquillité qui fut bonne en commun, que chacun la cherche en son particulier. Et non seulement cela, mais chacun a d'autant plus de chances d'y atteindre qu'il a pris moins de peine, qu'il se fie davantage à l'action spontanée de la nature qui n'attend pas, pour nous assurer de ses bienfaits, d'être devenu objet de science et d'instruction. Nous avons abandonné nature et lui voulons apprendre sa leçon, elle qui nous menait si heureusement et si sûrement. Il n'y a donc pas à nous redire. Le plus simplement se commettre à nature, c'est s'y commettre le plus sagement. Et Montaigne précise, ma philosophie est en action, en usage naturel et présent, peu en fantaisie. Prince-je, puis-je prendre, plaisir à jouer aux noisettes et à la toupie. À quoi correspond cependant et que pèsera cette volonté ou cette velléité de retour à la conscience de l'enfant chez un homme qui est tout jugement et toute réflexion, qui consacre le meilleur de son temps à s'informer de ce que les siècles passés peuvent offrir à une curiosité toujours en éveil, accumulant pour une méditation constante les traits singuliers de prudence et de folie, d'héroïsme et de cruauté. Y a-t-il là autre chose qu'un nouvel effet de cette humilité feinte à laquelle l'auteur des essais se complaît trop souvent ? Qu'il ne peut atteindre à cette noble impassibilité stoïque, qu'il se sauve au giron de cette mienne stupidité populaire. Ce que cela faisait par vertu, je me suis, je m'entraîne, à le faire par complexion. La moyenne région loge des tempêtes. Les deux extrêmes, des hommes philosophes et des hommes ruraux, concourent en tranquillité et en bonheur. Les paysans simples sont honnêtes gens et honnêtes gens philosophes, ou, selon notre temps, des natures fortes et claires, enrichi d'une large instruction de sciences utiles. Pourtant, de ma part, je me recule tant que je puis dans le premier et naturel siège d'où je me suis pour néant essayé de partir. Montaigne exagère et lui-même le confesse quand il explique de quelle manière son âme se gouverne. Je l'avais alors non seulement exempte de troubles, mais encore pleine de satisfaction et de fête, comme elle est le plus ordinairement moitié de sa complexion, moitié de son dessein. Le dessein, c'est la ferme résolution de tenir toujours droit à notre timon, afin de nous assurer la vraie liberté, dont Montaigne donne la définition, pouvoir toute chose sur soi. Et Montaigne ajoute cette situation de Sénèque, potentissimus est qui se habet in potestate. Celui-là possède la suprême puissance qui se possède en soi-même. Sous ce jour, Montaigne se montre très éloigné d'un abandon voluptueux à la spontanéité du flux vital, car la vie est un mouvement inégal, irrégulier et multiforme. La confiance qu'il avait d'abord mise dans la nature semble plus qu'ébranlée lorsqu'il évoque avec horreur la joie des foules romaines se ruant au combat de gladiateurs. Il laisse tomber de sa plume la tragique accusation. Nature, à ce cringe, elle-même attache à l'homme quelque instinct, à l'inhumanité. Ailleurs, il emprunte à Plutarque l'aveu de ce que tiennent les stoïciens que nature même procède contre justice dans la plupart de ses ouvrages. L'attention de Montaigne déborde la thèse du naturalisme. Sérieusement et sincèrement, il rend hommage à la philosophie, qui ne pense pas avoir mal employé ses moyens quand elle a rendu à la raison la souveraine maîtrise de notre âme et l'autorité de tenir en bride nos appétits. Il est significatif que, tout en déclarant « comme affaire à dire aussi je suis tout simplement ma forme naturelle », Montaigne refuse de s'abandonner aux sentiments de plus profondément inscrits par la nature dans le cœur des hommes. Traitant de l'affection des pères aux enfants, il recommande expressément que nous nous en tenions toujours à la raison, nonobstant la foi naturelle. Seulement, cette raison n'a rien de commun avec certaines images de prud'homie scolastique, serve des préceptes, contrainte sous l'espérance et la crainte. La faculté de ce nom, que Montaigne admire à l'œuvre chez Socrate et qui le redresse de son vicieux pli, a de quoi se soutenir sans aide, née en nous de ses propres racines par la semence de la raison universelle empreinte en tout homme non dénaturé. Nature et raison s'appelleraient en définitive pour se compléter et pour s'équilibrer. N'est-ce pas en cela que consiste l'excellence de Plutarque ? Qui est de tous les auteurs que je connaisse celui qui a mieux mêlé l'art à la nature et le jugement à la science ? Et n'est-ce pas ce qui fera dire à Montaigne « Mais moi, d'une condition mixte, grossier, me laisse tout lourdement aller au plaisir présent de la loi humaine et générale, intellectuellement sensible, sensiblement intellectuelle. » D'où le double vœu, que l'esprit éveille et vivifie la pesanteur du corps, le corps arrête la légèreté de l'esprit et la fixe. Dans la pratique, ce double vœu se traduit par un curieux effort de composition et de compensation. J'ordonne à mon âme de regarder la douleur et la volupté de vue pareillement réglée et pareillement ferme, mais gaiement l'une, l'autre sévèrement. Et Montaigne, au seuil de la vieillesse, s'estime en droit de témoigner. Je me défends de la tempérance comme j'ai fait autrefois de la volupté. Elle me tire trop arrière et jusque à la stupidité. Or je veux être maître de moi à tous sens, la sagesse à ses excès, et n'a pas moins besoin de modération que la folie. Le souci d'équilibre intérieur ramène Montaigne tout près de son point de départ, vers une morale de la conscience qui élargit et domine, sans pourtant la contredire, une psychologie de la conscience. À cet égard, il en sera de la conscience morale comme de la raison elle-même. S'il fallait y voir une puissance transcendante dont nous subirions du dehors la contrainte, Montaigne serait le premier à la récuser. Les lois de la conscience que nous disons naître de nature naissent de la coutume. Chacun ayant en vénération interne les opinions et mœurs approuvées et reçues autour de lui, ne s'en peut déprendre sans remords, ni s'y appliquer sans applaudissements. Mais cette conscience d'autorité illusoire ne disparaît que pour faire place à une autre conscience, émanant du fond véritable de notre être, et cette substitution marque d'attrait essentiel la dialectique des essais. Nous autres, principalement, qui vivons une vie privée qui n'en montre qu'à nous, devons avoir établi un patron au-dedans, auquel toucher nos actions et, selon celui, nous caresser tantôt, tantôt nous châtier. J'ai mes lois et ma cour pour juger de moi et m'y adresse plus qu'ailleurs. D'autant plus volontiers, convient-il d'ajouter, qu'elles sont le reflet de ce que chacun découvre en soi une forme sienne, une forme maîtresse, qui lutte contre l'institution et contre la tempête des passions qui lui sont contraires. La bonté de la règle se mesurera donc à la hauteur de l'âme qui l'inspire. Le chapitre du repentir contient cette déclaration « Ma conscience se contente de soi non comme de la conscience d'un ange ou d'un cheval, mais comme de la conscience d'un homme. Seulement cet homme est Montaigne, qui pourrait être, selon ses propres expressions, né à la société et à l'amitié, n'en sera pas moins jaloux de maintenir l'ordre irréversible des valeurs. » Pascal se souviendra d'avoir lu « Nous devons la sujétion et l'obéissance également à tous rois, car elles regardent leur office, mais l'estimation non plus de l'affection, nous ne la devons qu'à leur vertu. » Ma raison n'est pas duite à se courber et fléchir, ce sont mes genoux. » Parole d'un accent rarement entendu au XVIe siècle, d'autant que la fierté d'un jugement indépendant à l'égard des grandeurs de chair s'accompagne d'un élan généreux vers ce qui paraît hors d'état de se protéger soi-même. J'accuse toute violence en l'éducation d'une âme tendre qu'on dresse pour l'honneur et la liberté. À quoi fait écho une émouvante profession de principe ? Des violences qui se font à la conscience la plus à éviter, à mon avis, et celle qui se fait à la chasteté des femmes. À la vérité, ces cruautés ne sont pas dignes de la douceur française. Et Montaigne étendra encore les horizons de son regard et de son intérêt. S'il y a-t-il un certain respect qui nous attache et un général devoir d'humanité, non aux bêtes seulement qui ont vie et sentiment, mais aux arbres mêmes et aux plantes, nous devons la justice aux hommes et la grâce et la bénignité aux autres créatures qui en peuvent être capables. Il y a quelque commerce entre elles et nous, et quelque obligation mutuelle. Jamais l'idéal simplement humain d'équilibre et d'harmonie ne s'est exprimé de façon plus exquise. Il reste que sur cet équilibre et sur cette harmonie pèse la menace trop certaine d'une rupture totale par la mort. Patrie de notre être, non moins essentielle que le vivre, ou, pour mieux dire encore, la plus remarquable action de la vie, sans qu'il y ait à imaginer, dans un temps qui serait hors de notre temps, un état qui serait par-delà tout à la fois et notre mort et notre vie. Somnia sunt non docentis sed optantis, disait déjà un ancien, Cicéron dans les académiques. Rêve et souhait qui ne sont susceptibles de quelque justification que ce soit. Une fois de plus, l'assurance affectée du dogmatisme répond simplement à la variabilité congénitale de l'espèce. Un soin extrême tient l'homme d'allonger son être. Il y a pourvu par toutes ses pièces. Et pour la conservation du corps sont les sépultures, pour la conservation du nom, la gloire. Quant à l'âme, que l'illusion métaphysique érige en substance, peu importe que le spiritualisme l'ait déclarée éternelle en la détachant du corps. Car à ce compte, ce ne sera plus l'homme ni nous, par conséquent, à qui touchera cette jouissance, car nous sommes bâtis de deux pièces principales essentielles, desquelles la séparation, c'est la mort et ruine de notre être. Aussi bien la résurrection de la chair accompagnera-t-elle, suivant l'enseignement de l'Évangile, la transfiguration angélique des élus. Les chrétiens savent que la justice divine embrasse cette société et jointure du corps et de l'âme jusqu'à en rendre le corps capable de récompense éternelle. Encore, la justice est-elle ici une façon de parler qui ne soutient pas l'examen? Il s'en faut que Montaigne attribue aux preuves morales de l'immortalité plus de valeur qu'aux preuves spéculatives. Les questions sont posées d'un ton qui n'admet guère la réplique. Sur quel fondement de leur justice peuvent les dieux reconnaître et récompenser à l'homme, après sa mort, ses actions bonnes et vertueuses, puisque ce sont eux-mêmes qui les ont acheminées et produites en lui? Et pourquoi s'offensent-ils et vengent sur lui les vicieuses, puisqu'ils l'ont eux-mêmes produit en cette condition fautière, et que d'un seul clin de leur volonté, ils le peuvent empêcher de faillir? Et ailleurs, cet appel saisissant à la norme incorruptible de l'équité, les lois qui nous condamnent à ne pouvoir pas, nous accusent elles-mêmes de ne pouvoir pas. La mort est imminente au cours de la vie. Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Seulement ce qui, du point de vue de la vie en général, est un simple phénomène dans la chaîne des événements est, par rapport à la conscience de chaque vivant, une négation absolue qui n'attend pas son heure pour nous envelopper de ses ténèbres. La mort se mêle et confond partout à notre vie. Non seulement parce qu'elle ronge notre organisme et en effrite la résistance, mais parce que son inéluctable nécessité s'impose à notre esprit. Et qui craint de souffrir, il souffre déjà de ce qu'il craint. En fait, il est certain qu'à la plupart, la préparation à la mort a donné plus de tourments que n'a fait la souffrance. Anticipation de la mort par la vie, projection de la mort sur la vie, c'est chez Montaigne une véritable hantise du maître jour, le jour juge de tous les autres. Elle remonte loin dans son passé. On en a le témoignage dans le récit de Montaigne des derniers instants de la Boétie, aussi émouvant en sa simplicité que les scènes du Phédon. Me prenant par la main, mon frère, mon ami, je m'assure que j'ai fait assez de choses, ce me semble, à ma vie, avec autant de peines et difficultés que je fais celle-ci. Et quand tout est dit, il y a fort longtemps que j'y étais préparé et que j'en savais ma leçon toute par cœur. Puis, il m'interrompit pour me prier d'en user ainsi et de montrer par effet que les discours que nous avions tenus ensemble pendant notre santé, nous ne les portons pas seulement à la bouche, mais en gravés bien avant en cœur et en l'âme pour les mettre en exécution aux premières occasions qui s'offriraient, ajoutant que c'était la vraie pratique de mes études et de la philosophie. La prière de la Boétie fut exaucée. La mort de son ami a été, en septembre 1592, douce et paisible, suivant l'exemple qui lui avait été légué en août 1563. Mais dans l'intervalle, Montaigne n'a cessé de tourner, et de retourner le problème de l'acte à un seul personnage. On songe à Rembrandt qui se dessinait dans tous les costumes et dans toutes les poses, lorsqu'on voit Montaigne, à travers les essais, évoquer mille formes de la mort naturelle ou violente. Imaginez mille visages du mourant chez lui en voyage, tantôt seul, tantôt en compagnie, et la disposition morale varie autant que le décor. Les philosophes anciens se sont donné à tâche de minimiser la mort, si même ils n'y ont pas vu la recette à tout mot, c'est un port très assuré qui n'est jamais à craindre et souvent à rechercher. Il la dépouille de l'épaisseur temporelle qui la fait apparaître si redoutable. Ni ce qui va devant, ni ce qui vient après n'est les appartenances de la mort. D'où le dilemme de Lucrèce, la mort est moins à craindre que rien, s'il y avait quelque chose de moins. Elle ne vous concerne ni mort ni vif. Vif parce que vous êtes, mort parce que vous n'êtes plus. À la leçon d'Épicure, Montaigne joint celle des stoïciens, sans cependant s'interdire de railler les efforts que Sénèque se donne pour se préparer contre la mort, à devoir suer d'âme pour se roidir et pour s'assurer et se débattre si longtemps en cette perche. Et il s'interroge. Est-ce bien véritablement force d'âme que d'éprouver une telle peur d'avoir peur? N'y a-t-il pas une certaine naïveté à se laisser obséder par le souci de chasser l'obsession, comme par exemple Kant, lorsque, après la perte de son fidèle domestique, il s'avisera de rédiger pour lui-même la consigne « Pensez à oublier l'Ump ». De fait, l'évanouissement où il a pu, comme expérimenter sinon la mort, du moins la mourir, inspire à Montaigne un espoir. La mort ne vaut pas la peine que je prends à tant d'après, que je dresse et tant de secours que j'appelle et assemble pour en soutenir l'effort. Mais, ajoute-t-il, à toutes aventures, nous ne pouvons nous donner trop d'avantages. Encore, cette réserve s'efface-t-elle. Regardons à terre les pauvres gens que nous voyons épandus, la tête penchante après leur besogne, qui ne savent ni Aristote, ni Caton, ni exemple, ni précepte. De cela tire nature tous les jours des effets de constance et de patience plus purs et plus roides que ne sont ceux que nous étudions si curieusement à l'école. Je ne vis jamais paysan de mes voisins entrer en cogitation de quelle contenance et assurance il passerait cette heure dernière. Nature lui apprend à ne songer à la mort que quand il se meurt. Et lors, il y a meilleure grâce qu'Aristote, lequel la mort presse doublement et par elle, et par une si longue prévoyance. Le problème de la mort se ramène donc à faire entrer le savoir mourir dans le cadre du savoir vivre, en établissant une entière égalité de conscience et d'humeur entre le temps de notre existence et celui qui la terminera. L'extrême degré de traiter courageusement la mort est le plus naturel, c'est la voir non seulement sans étonnement, mais sans soin, continuant libre le train de la vie jusque dans elle. Comme Caton qui s'amusait à dormir et à étudier en ayant une, violente et sanglante, présente en sa tête et en son cœur, et la tenant en sa main. Il est même arrivé que Montaigne ait placé plus haut encore un Socrate pour qui est indifférente la mort, effroyable à Cicéron, désirable à Caton. Cette décision d'indifférence rejaillit sur la vie pour en accroître en quelque sorte l'intensité. Qui apprendrait les hommes à mourir leur apprendrait à vivre. Montaigne se refuse à compter sur la faiblesse croissante du corps pour un retour à la tranquillité de l'esprit. Misérable sorte de remède de voir à la maladie sa santé. C'est tout autrement que s'exprime chez lui le sentiment de la vie. Je me compose à la perdre sans regret, mais comme perdable de sa condition, non comme moleste et importune. Aussi ne sait-il proprement bien de ne se déplaire à mourir qu'à ceux qui se plaisent à vivre. Il y a du ménage à la jouir. Je la jouis au double des autres, car la mesure en la jouissance dépend du plus ou moins d'application que nous y prêtons. À mesure que la possession du vivre est plus courte, il me la faut rendre plus profonde et plus pleine. Profondeur qui s'emplit, plénitude qui s'approfondit, jusqu'à ces moments d'élection où nous est donné de nous sentir libres et déliés, tels que nature nous a mis au monde. Allégé de son intérêt propre, étranger au cours du temps et à ses divisions, l'homme ne souffre plus de ce que Montaigne considère comme la plus pénible assiette, être suspens des choses qui pressent et agitées entre la crainte et l'espérance. Pas davantage il ne connaît l'incomplétude des mystiques renvoyés sans fin de l'éblouissement dans l'excès de lumière à la séduction de la nuit obscure. Rien ne le sépare d'un dieu, lui-même dégagé des traditions, qui ont trop souvent rabaissé la piété stoïque et même la foi chrétienne au niveau misérable de nos analogies et conjectures. Un chant de douceur intime et de sérénité s'élève dans l'âme. Elle mesure combien c'est qu'elle doit à Dieu d'être en repos de sa conscience et d'autres passions intestines, d'avoir le corps en sa disposition naturelle, jouissant ordonnément et compétemment des fonctions molles et flatteuses, par lesquelles il lui plaît compenser de sa grâce les douleurs de quoi sa justice nous bat à son tour, combien lui vaut d'être logée en tel point que, où elle jette sa vue, le ciel est calme autour d'elle. Nul désir, nulle crainte ou doute qui lui trouble l'air, aucune difficulté passée, présente, future, par-dessus laquelle son imagination ne passe sans offense. Page inattendue, qui sans la démentir absolument, tranche sur la tonalité ordinaire des essais, et qui suffirait pour nous mettre en garde contre la tentation de fermer sur elle-même l'image de leur auteur.